trois artistes aujourd'hui annoncés derrière ce micro. Trois artistes assez inclassables, avec notamment René Collèche, allemand, qui vient pour la première fois à Avignon et qui présente Pablo au supermarché Plus. Ensuite, nous recevrons Yann Fabre, flamand, avec L'Ange de la Mort. Et tout de suite, Yann Overs, qui est donc à mes côtés, et qui présente la chambre d'Isabella au cloître des Carmes à partir du 9 et jusqu'au 15 juillet. Alors, Yann Fabre, bonjour.
Yann
Overs. Ça commence très fort. Excusez-moi. Yann Overs, bonjour.
Yann Overs, bien joué, Yann Fabre, vous l'aime.
Mais acceptera-t-il de jouer Yann Overs? Okay. C'est pas gagné. Excusez-moi. Donc, Yann Overs, comment vous présentez tout d'abord? Parce que j'ai l'impression que vous faites partie de cette génération d'artistes qui travaillent sur tous les matériaux, sur toutes les écritures, avec les mots, avec les corps, avec le théâtre, avec la danse, en plusieurs langues. Souvent, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre écriture de l'ordre du millefeuille, pour ne pas dire multimédium?
C'est un peu compliqué ça, parce que je pense, d'abord, quand j'ai commencé Lead Company, il y a 20 ans, il y a 15 ans, j'ai toujours eu l'idée d'avoir un groupe international. Comme Albert Einstein a dit, le nationalisme est une maladie d'enfance de l'humanité. Et moi, j'ai toujours eu peur de certaines formes de nationalisme. Donc, dans notre compagnie, il y a toujours 7-8 différentes langues ou nationalités. Mais sans coquetterie, sans exotisme, c'est juste, je travaille avec des danseurs chinois ou des danseurs turco-anglaises, pas parce qu'ils sont d'autres origines, mais parce qu'ils sont bons. Et naturellement, dans cette situation, il y a toujours différentes langues qu'on doit utiliser. Et quand j'ai inventé le nom Meat Company, c'est un nom anglais, mais qui est faux écrit. Donc c'est un anglais européen qui est faux. Donc tout le monde parle un peu un deuxième langue faux, comme maintenant je parle français très faux, très mauvais. Mais on se débrouille. Donc tout le monde en Europe parle de plus en plus de différentes langues, et c'est important. Donc voilà, il y a différentes langues, il y a des danseurs, la danse est très internationale, parce que tout le monde comprend ou ne comprend pas, mais les mouvements sont différents que les mots. Et moi, comme artiste, je ne suis pas un metteur en scène, disons. J'ai toujours utilisé le théâtre comme j'utilise la danse ou la musique. Je suis peintre, donc il y a les différents médias qui sont là pour un artiste pour utiliser.
Mais vous n'avez jamais privilégié une écriture plutôt qu'une autre?
Non, j'essaye de...
D'abord, ça varie avec les spectacles.
Je pense que je suis un créateur d'images, un artiste visuel, mais en même temps, vous allez voir ça demain, la chambre d'Isabelle est vraiment écrite comme une pièce presque conventionnelle. Donc ça dépend de ce que je veux dire. Si quand j'ai créé des spectacles sans mots, mais maintenant le texte est vraiment le centre du spectacle.
Oui, il y a une narration dans la chambre d'Isabella. Donc vous allez pouvoir le raconter, mais c'est l'histoire d'une vieille femme aveugle qui reconstitue en fait sa vie et en même temps le siècle qu'elle a traversé. Ouais. Est-ce qu'on peut raconter cette pièce de cette manière-là?
Oui, je peux un peu introduire ça. C'est-à-dire que mon père est décédé il y a 2 années et il a laissé une collection de plus de 5000 objets archéologiques et ethnologiques. Enfin, j'ai vécu dans une maison pleine de ces objets, des momies, des sarcophages, des fétiches voodoo sous mon lit, et je trouvais ça normal. Mais maintenant qu'il est mort, je suis confronté avec cette collection et ça me perturbe. J'ai commencé à écrire autour de cette collection, je l'ai mis sur scène et on commence à parler autour de ça. Et voilà, j'ai écrit un texte autour d'une femme, Isabella Morandi, qui habite dans une chambre pleine des objets. Et son rêve, c'est d'aller en Afrique pour voir les objets en réalité dans leur origine. Et elle n'allait jamais en Afrique, disons. Donc, cette réalité, cette collection sur scène, c'est pas que je voulais écrire une autobiographie autour de moi ou de mon père, mais c'est quand même, il y a un aspect autobiographique qui est très important. Et le fait que les objets sur scène, par exemple, il y a des momies de faucons de 3500 ans, sont vrais sur scène, ça c'est par exemple pour moi très important, qu'on mette toujours en discussion c'est quoi le théâtre. Est-ce que tout doit être faux? Est-ce que tout est une illusion? C'est où la réalité? Et c'est le même chose pour les acteurs. Les acteurs sont des acteurs, mais sont aussi des êtres humains. Donc j'essaie de créer une théâtre qui est très humain.
Mais vous disiez que ce n'était pas une autobiographie en tant que telle, mais est-ce que c'est quand même une façon de faire son deuil? Est-ce que ce spectacle est une façon pour vous de faire le deuil de votre père, de la disparition de votre père?
Non. Quand je commence à écrire, je suis complètement froid, disons, et je ne veux pas avoir un aspect de deuil ou un aspect thérapeutique. Pas du tout. C'est juste cette confrontation avec ces images, la beauté de chaque objet, par exemple, la valeur de chaque objet, et aussi... le fait qu'ils font peur quand on. Les questions éthiques autour de ça aussi. Cette collectionneur obsessif qui était mon père avait des ouchaptis, ce sont des petits guerriers qu'on trouve dans les tombes des pharaons. Quand ils sont sur la table, sur scène, d'où ils viennent? Ils sont volés dans une tombe quelque part. Donc, il y a toujours un aspect qui est éthiquement dangereux, faux, et tout ça m'inspire d'écrire un texte autour de ça.
Pourquoi avoir choisi de donner le rôle principal à une femme?
Parce que je trouve que dans le théâtre conventionnel, disons, ou historique, il n'y a pas beaucoup de grands rôles pour femmes. Disons 10%. Et pour femmes et 90% est pour hommes. Il y a beaucoup de grands rôles pour hommes. Et moi, je voulais vraiment écrire pour une femme. Maintenant, c'est pour Viviane de Manque qui va interpréter Isabella. Et je voulais vraiment créer une rôle importante pour une femme et j'espère que tout le monde va aimer cette femme. J'ai essayé de faire une combinaison entre Zorba le Grec, l'enthousiasme et l'optimisme de Zorba le Grec qui danse sur le tombe de son fils, et Marc-Antoine, de Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Ça, c'est un des caractères dans la littérature que j'aime beaucoup, c'est Marc-Antoine qui a cette lust for life, cette joie de vivre. Et ces deux combinaisons, c'est une combinaison des deux, mais féminin. Je pense qu'on a besoin des grandes femmes pour détruire le visage de l'image du mal qu'on voit maintenant. C'est parce qu'on a détruit trop les femmes.
Cette femme-là, cette comédienne, elle a par ailleurs un statut un peu particulier au sein de votre compagnie, la Nive Compagnie. J'ai lu qu'elle était un peu considérée comme la muse de votre troupe.
Il y a quelques femmes qui sont mes muses, je pense, mais Viviane de Munch est une elle a le diva de théâtre d'avant-garde d'Europe, je pense.
La diva du théâtre d'avant-garde d'Europe.
Voilà.
Avec un parcours quand même très très particulier, parce que c'est pas quelqu'un qui, dès l'origine, a fait du théâtre.
Non, elle a décidé de commencer comme actrice quand son mari est mort, elle avait 33 ans. Et elle retourne à l'école. Mais c'est une grande femme, je l'ai voir.
La mort est quand même assez omniprésente à la fois dans votre travail, et là j'ai l'impression que c'est aussi un des grands axes de cette pièce. Comment faire avec la mort?
Oui, je pense que la mort est très importante, en fait, la mort fait partie de la vie. Et toujours pensé, comme Elias Canetti a dit, il faut engueuler la main, il faut se battre contre. Maintenant, je pense de plus en plus qu'on doit danser avec la mort, qu'on doit aimer la mort. Comme ça, c'est, il y a un autre aspect de la vie qui sort, j'espère. Donc pour moi, la mort, je joue avec ça dans mes pièces, très léger, très agréable.
Alors j'ai lu dans le supplément des Inrecruptibles une phrase, je ne sais pas si elle est extraite de votre spectacle, Yann Lauer, c'est survivre, à savoir exister encore après que quelque chose a disparu. C'est une des phrases du spectacle.
Encore une fois.
Survivre, de point, exister encore après que quelque chose a disparu.
Non, c'est pas dans le texte.
C'est pas dans le texte.
Ou c'est différent.
C'est une légende de photo de votre spectacle.
J'ai un placard.
Alors, bien évidemment, si vous avez des questions.
Je ne comprends pas bien là. Et encore une.
Survivre, exister encore après que quelque chose a disparu.
Ouais. C'est normal.
Oui, c'est normal. C'est absolument évident. Comment. Donc, si vous avez des questions.
Mais peut-être j'ai dit ça pour. Pour introduire un peu le théâtre, par exemple, et l'art visuel, en peinture, par exemple, où ça se touche. Quand on voit une peinture dans un musée, par exemple, c'est le spectateur qui décide combien de temps on regarde une peinture. Dans le théâtre, c'est l'acteur ou le metteur en scène qui décide combien de temps on peut voir quelque chose. Donc, quand on quitte le musée et quand on quitte le théâtre, c'est la mémoire qui commence à travailler. Donc, si on oublie la peinture, on peut considérer qu'il n'y a pas que ça, c'est pas une image. Donc, dès que l'image se brûle dans le cerveau, disons, l'art est né.
Et donc, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, vous levez le doigt. Justement, si on parle du regard d'Yann Lauer, pourquoi avoir choisi de faire de cette femme que vous avez là une femme aveugle pour travailler justement sur sa propre mémoire et sur la mémoire du siècle.
Il y a différentes raisons pour ça. Hein, mais pour moi, c'est quand on est aveugle. Pour un acteur, par exemple, on voit plus les yeux. Et si on voit plus les yeux, c'est l'esprit qui fonctionne beaucoup plus. Un aveugle, pour moi, c'est une image de quelqu'un qui pense très fort. Et je veux vraiment avoir un théâtre où les acteurs d'abord pensent et après font. Et dans mon travail, j'essaie toujours de. Et pour moi, ce n'est pas important de connaître le texte par cœur. C'est important de penser le texte. Et c'est important de ne pas reproduire ce qu'on a fait bien, mais d'essayer de produire, de ne pas recréer, mais créer chaque fois. Et c'est pour ça que je suis toujours avec eux aussi, que de trouver toujours un moyen de changer ce qu'on a fait. Cette forme de réflexion, on voit très clairement dans le visage du bien quand elle joue une femme aveugle, et ça donne une autre tension.
Mais quel est le lien entre
pour moi, c'est peut-être aussi métaphorique. Je suis vraiment quelqu'un de visuel, et être aveugle est la fin un peu pour moi.
Ça veut dire que toutes les images du spectacle sont en fait des images mentales. Des images à l'intérieur du cerveau de cette femme.
Oui. On peut dire qu'on essaye de jouer le cerveau d'Isabelle ensemble, parce qu'il y a 10 acteurs sur scène.
Et comment s'articule sa propre histoire à l'histoire du siècle?
On raconte l'histoire, elle est née en 1910, et quand elle raconte son histoire, elle a 90 ans. et elle raconte sa vie, donc c'est normal qu'il y a toujours un link avec le siècle passé, qui est, on dit toujours, le siècle le plus rapide. Et on avait eu deux guerres mondiales et tout ça, donc c'est un siècle qui inspire beaucoup.
Justement, de quel siècle parle-t-elle? De quel siècle
le
20e, mais du siècle des grands événements, des guerres, d'Hiroshima, etc., ouais. Ou au contraire d'un siècle plus individualisé et
très, c'est très individualisé, mais il y a toujours derrière elle les grands événements qui se déroulent. Et on touche ça légèrement, avec des anecdotes, disons, qui, chaque anecdote que je raconte, sont des anecdotes que j'ai pas inventées mais qui sont réelles. Par exemple, il y a en 1945, on raconte l'histoire mon oncle qui était emprisonné à Hiroshima. Et quand le bombe atomique explose, il devait travailler dans les mines de Mitsubishi. Donc il était 200 mètres sous terre. Et donc quand le bombe a explosé, il pensait que c'était juste un tremblement de terre. Donc la mine a été partie détruite. Donc il trouvait un chemin de sortir et voyait tous les morts. Et il était en train de... Il a travaillé des semaines encore comme prisonnier de transporter les cadavres. Donc il vit encore. Il a raconté cette histoire. Donc cette histoire est par exemple une histoire que j'ai transmise dans la vie d'Isabelle.
Je vais interroger le public pour savoir s'il y a des questions à propos donc de la chambre d'Isabella de Jan Lowers. Je ne vois aucun doigt se lever. Alors, une dernière question peut-être à propos de la nature des objets. Donc, vous disiez que c'était des objets qu'avait collectionné votre père. J'ai eu l'impression, à lire ce qui a été écrit sur cette pièce avant de la voir, bien évidemment, qu'il y avait beaucoup d'objets africains.
Oui. Moi j'ai choisi, j'ai pris surtout des objets africains.
Pour quelle raison?
Parce qu'il y avait trop d'objets. Et il y avait des objets de Latin-Amérique, d'Amérique latine, de l'Inde, chinois, russe, d'Europe aussi. Mais je trouvais l'Afrique est très présente. Il y avait aussi cette link peut-être avec mon père et le colonialisme à l'époque, et aussi que l'Afrique est toujours dans notre mentalité, certainement maintenant l'influence américaine par exemple, on parle de l'Irak et tout, et on oublie toujours les grandes catastrophes en Afrique, et la raison la plus importante c'est que le premier acteur avec qui j'ai travaillé, quand j'ai commencé le théâtre, quand j'avais 20 ans, c'était un ami de moi, c'était le premier acteur que j'ai travaillé avec. Après 2 années, il a décidé d'aller en Afrique. Il voulait arrêter d'être l'acteur et changer le monde, disons. Et il a quitté pour travailler en Afrique et il est tué pendant la guerre en Somalie. Donc aussi ça, je raconte dans l'histoire d'Isabella. Mais ça, c'est une des raisons pourquoi je parle d'Afrique.
Parce qu'on dit aussi souvent de l'Afrique que c'est l'un c'est le continent oublié, même.
Oui.
Autour de...
C'est oublié, c'est détruit, c'est incroyable. C'est vraiment une honte pour toute l'humanité sur notre planète.
Et en réutilisant, en redonnant vie à ces objets sur scène, c'est une façon de tendre la main, une façon de...
Moi, je veux vraiment faire...
avec l'idée de l'Afrique.
Je veux vraiment faire de la chambre d'Isabelle une pièce où on voit une femme qui a décidé très tôt dans sa vie que notre société est dirigée par le mensonge. elle décide très jeune qu'elle ne veut pas mentir, qu'elle va toujours dire la vérité et que le chagrin et le deuil est une perte de temps. Elle veut vraiment montrer ou avoir une joie de vivre malgré tout. C'est un homme très optimiste.
Donc c'est une pièce joyeuse.
Très joyeuse et tragique en même temps.
Vous jouez au cloître des Carmes, qui est un des lieux un peu mythiques comme ça d'Avignon avec, avec la cour d'honneur. Comment vous avez appréhendé cet espace? Est-ce que d'abord c'est une pièce pour le plein air, la chambre qui s'appelle là?
Non. Non, mais ça va. Ça se débrouille, c'est bien, c'est agréable. Et justement, j'ai adapté un peu le texte, donc Isabelle est presque née dans les Carmes, disons.
Elle est née dans les Carmes.
Voilà.
C'est une héroïne avignonnaise.
Voilà.
Une dernière fois, y a-t-il des questions, madame? Attendez le micro.
Pourriez-vous parler de votre travail? Est-ce que vous créez ensemble aussi du texte? Ou est-ce que votre concept est déjà fait? Avant de travailler?
Ça dépend. Maintenant, j'ai écrit le texte presque tout seul. Donc, le texte était fait. Il y a une actrice écrivain qui est dans le groupe qui a écrit quelques parties aussi. On a décidé de faire une sorte de comédie musicale, disons. Parce que je pense chanter ensemble et danser ensemble est très important. Et on a oublié ça dans notre culture occidentale. Donc on chante beaucoup et la musique est faite par deux acteurs, performer, artistes de la Nice Company. Donc ça dépend. J'ai fait des spectacles où il n'y avait aucun mot écrit par avance et j'ai commencé à écrire autour d'eux. Mais pour moi, ce qui est principal, c'est que je dois avoir l'ensemble et dès que j'ai de chaque performer un photo sur mon bureau, je commence à écrire. Je dois avoir l'ensemble et j'écris pour eux. C'est très important. Comme d'ailleurs, on va montrer dans le cinéma Utopia, le film Goldfish Game, là aussi on voit l'ensemble qu'on voit ici dans la chambre de Isabella. Et j'ai aussi écrit le film avec un film avec 10 rôles principaux, qui est impossible en fait. Donc, j'ai pas un concept clair, c'est toujours différent, mais le cœur de mon travail, c'est l'ensemble.
Est-ce que vous diriez que c'est du travail collectif ou c'est du...
Le collectivisme n'existe pas vraiment. Hein. C'est difficile, non, je ne peux pas dire ça que c'est collectif, mais quand je dis à un spectateur, acteur et artiste norvégien qui a écrit la musique, par exemple, il fait son boulot et moi je fais la mienne, mais il accepte que moi je fais ce que je veux avec son travail parce que moi je prends la responsabilité finale. Mais lui, il fait aussi ses propres trucs à lui. Donc, maintenant, on a vraiment un groupe de 10 personnes dont il y a quelques-uns qui sont vraiment des artistes, les autres qui ont décidé d'être seulement des acteurs. Il y a une différence entre artiste et acteur ou artiste et metteur en scène. Un metteur en scène n'est pas par définition un artiste. Donc il y a toujours cet équilibre, cette balance, responsabilité qui doit un peu, mais le fait que j'ai mon atelier très privé où j'écris, j'ai fait mes peintures, autre chose, quand je suis avec les acteurs, je suis aussi un être social. C'est une autre manière de travailler. Et ça donne une très bonne balance.
D'autres questions? Apparemment non. J'aimerais juste qu'on reprécise un petit peu comment vous avez travaillé avec les musiciens justement de ce spectacle, quel type de commandes vous leur avez passé, sachant qu'ils...
Non, j'ai rien dit, j'ai juste dit, et si on chante, qu'est-ce qu'on, si on peut, peut-être on peut chanter tout le texte. Et dans ce cas-là, commencer à écrire quelques mélodies, Marc Seger, le plus jeune de la compagnie, commencer à écrire, donc on a eu deux musiciens, deux componistes. Moi j'ai commencé à écrire des chansons, et petit à petit ça était là.
C'est des chansons de quel
âge ? Organique qu'on a. On a travaillé, oui, très organique. Une semaine là, trois semaines, on était en train de tourner. Donc on a eu six mois. On était en train de tourner avec les autres, de voyager avec les autres spectacles et en même temps parler. On commençait à péter petit à petit. Donc on avait un grand temps pour créer toute la musique en même temps.
Les doigts se lèveraient-ils ? Non, personne. Vous voulez rajouter quelque chose ou on donne rendez-vous
au tout le monde va voir et chante avec vous.
Oui, j'ai vu que quand vous avez fait des propositions, notamment à la Bastille, vous offriez à boire aux spectateurs à la fin du spectacle.
On est en train de réfléchir sur ça encore.
Merci beaucoup, Yann Lovers, donc la chambre d'Isabella au Quatre des Carmes. Monsieur.
On reçoit donc Yann Lovers dans la cour des CMA le 14 juillet. Donc, il va vous rencontrer un peu.
Ok. C'était une annonce. Merci beaucoup, Yann Lovers, donc au Quatre des Carmes du 9 au 15 juillet avec la chambre d'Isabella.
Merci.
Merci. Je vais demander à. Polèche.
René, vite.
De venir nous retrouver. Il n'est pas là. Il est trop tard ou trop tôt pour lui ? René Polèche. Je vous encourage à poser des questions, toutes les questions sont bonnes, et je vais comme ça amorcer un petit peu la présentation du spectacle de René Polèche. Donc vous présentez au gymnase du lycée Saint-Joseph tableau sur Fermarché Plus, qui raconte l'histoire d'un homme dans une supérette allemande, façon un peu soap-opéra. Mais avant de parler du spectacle lui-même, puisque c'est votre première venue en Avignon, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu, sachant que vous dirigez à la Volksbühne une salle qui s'appelle le Prater. J'aimerais que vous précisiez un petit peu quelle est la spécificité de cette salle et de votre travail au sein de la Volksbühne, sachant que le public a pu découvrir hier le travail de la Volksbühne et de Franck Castor.
Das Besondere des Prater ist eine Idee, die vor vier Jahren entstanden ist. Da war ich noch gar nicht dabei. Also ich war einmal dabei, aber nicht als Leiter des Prater. Die Idee besteht darin, dass Bert Neumann, der Bühnenbildner, für ein Jahr, eine Saison, ein Bühnenbild baut.
Donc l'idée de départ, ça a commencé il y a 4 ans. René Polèche n'était pas voilà, au départ de l'aventure. C'était Bernd Neumann qui devait créer une scénographie pour réunir dans le cadre du Prater.
Bernd Neumann,
Neumann, c'est le scénographe de Franck Castor.
Oui, oui. Und die haben das 3 Jahre gemacht und immer wieder Leute eingeladen, die in den Bühnenbild Inszenierung machen. Und in dem Jahr, in dem ich dazu kam, kam die Idee auf, dass ich dann auch jemanden um das gesamte Programm kümmern könnte, zu übernehmen.
Donc ils ont fait ça pendant 2 ans, c'est vrai qu'ils passé les saisons à inviter des gens à faire des mises en scène dans cette scénographie-là, qui était installée là. Et puis René Polèche est venu aussi. À l'époque où il est venu, il a paru l'idée qu'une personne pourrait s'occuper désormais de la production, de la programmation de ces mises.
Und dass damit Bernd Neumann zu so einer Art erstem Autor dieser Saison wird. Also indem er einen Raum installiert, fordert er mich als Regisseur und mich als Autor und alle anderen auf, auf diesen Raum zu reagieren.
Donc en fait, Bernd Neumann reste le premier auteur du lieu et crée la scénographie et invite les auteurs, les metteurs en scène à créer dans le cadre qu'il crée.
Eine zweite Besonderheit ist die, dass wir am Prater natürlich nicht alle Geschmäcker bedienen müssen. Das ist sowieso das Schöne in Berlin, es gibt so viele Theater. Keines muss sich wie ein Stadttheater aufführen und also jede Form von oder das gesamte Publikum abdecken. Es gibt Theater, die für bestimmte Klientel zuständig sind und andere für eine andere. Und wir haben auch, glaube ich, ein sehr besonderes Publikum.
La deuxième particularité qui est vraiment très bien en Prater, c'est qu'on n'a pas à plaire pour tous les goûts, comme un théâtre municipal qui doit offrir à peu près une palette relativement large pour couvrir un large public. Il y a beaucoup de théâtres à Berlin, chacun est un petit peu spécialisé, et puis le Prater a son public un peu particulier. Et voilà.
Le public bei uns holt sich nicht Interprétation von Klassikern ab, wie das normalerweise im Stadttheaterbetrieb auch üblich ist.
Le public du Prater ne vient pas chercher des interprétations nouvelles de classiques.
C'est tout. Il vient chercher quoi?
Le public du Prater kommt nicht wegen einer so einer Grundverabredung, die nach meiner Meinung auch falsch ist im Theater. Sich da, wie gesagt, entweder eine neue Ausgabe von irgendeinem Klassiker abzuholen oder so den Dramenkanon, den es auch kennt. Das Publikum im Prater kommt, oder ich kann es natürlich nicht genau sagen, das ist so natürlich auch teilweise die Hoffnung, dass es aus den Gründen kommt, aufgrund von der Desorientierung, aufgrund der Tatsache, dass es seine Probleme benannt sehen möchte oder Diskurse hören möchte über die Probleme oder die Widersprüche, in denen die Leute leben, die zu uns kommen. Und das hat sich immer mehr, also der Prater ist ein Ort geworden, wo man sich quasi Vorschläge von Orientierung oder genau so eine also Ja sagen zur Desorientierung abholt.
Donc en fait, le Prater n'est pas un lieu, où on a ce rendez-vous classique au théâtre, on va voir des relectures, etc. qui est une démarche, selon René, qui n'est pas bonne, mais c'est un public qui... En fait, on espère que c'est ainsi, c'est un public qui recherche des questionnements, qui veut que ses propres problèmes soient évoqués sur scène, et qui évoque les problèmes d'aujourd'hui sur le plateau.
Dans quel type de théâtre vous défendez au sein de cette salle, et en tant que metteur en scène? À votre propos, on parle souvent d'anti-théâtre.
Ich würde das natürlich niemals Anti-Theater nennen. Für mich ist das Theater.
Je nommerai jamais ça, jamais la vie de l'anti-théâtre. Pour moi, c'est tout simplement du théâtre.
Wir machen die Themen, über die wir reden im Prater oder über die die Abende gehen, haben immer sehr stark mit dem Alltag der Leute zu tun, die diese Theaterabende auch produzieren.
Les thématiques soulevées dans ces soirées théâtrales ont très souvent un rapport avec le quotidien des personnes qui sont dans ce théâtre et qui font ce théâtre.
Wir reden zum Beispiel nie über Arbeits- oder Lebensverhältnisse, über die wir keinen Einblick haben.
Donc on ne parle jamais de situations de travail ou de quotidien avec lesquelles on n'a aucun rapport.
Das bedeutet andererseits nicht, dass wir autothematisches Theater machen, dass wir nur über Künstler reden oder Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, sondern wir reden darüber in der Hoffnung, dass wir damit auch Aussagen machen können über die Verhältnisse, in denen die Leute leben und arbeiten, die zu kommen.
Ce qui ne veut pas dire que on fait du nombrilisme, mais qu'on parle uniquement des problèmes d'artistes, mais on espère, par ce biais, parler sincèrement et évoquer par ce biais les problématiques que les gens ont.
Okay. Genau, wir können zum Beispiel nicht über die Verhältnisse im Prater eines Fabrikarbeiters reden.
On ne peut pas parler au Prater, on ne peut pas parler d'un ouvrier d'usine, par exemple.
Deshalb stimmt auch nicht, dass Pavel in der Flussfiliale ein Stück ist über jemanden, der in der Flussfiliale arbeitet oder die Geschichte eines Menschen erzählt, der da arbeitet.
C'est ce qui veut dire que Pablo au supermarché plus n'est pas une histoire de quelqu'un qui travaille dans un supermarché,
sondern der Abend geht im Grunde über wie Leute leben, wie Leute versuchen sich Arbeit zu organisieren, abseits von einem Arbeitsbegriff, den wir in Europa noch haben, in einer sogenannten dritte Weltmetropole wie São Paulo, im Gegensatz zu Metropolen wie die Region.
C'est-à-dire comment les gens essayent de développer le problème, comment les gens essayent de vivre, comment les gens essayent de développer, de travailler dans les conditions de travail qui sont celles parce que l'Europe est encore préservée, donc on évoque en fait les conditions de travail à São Paulo.
Es geht nicht um so eine Art folkloristisches Theater, dass wir uns plötzlich mit der dritten Welt beschäftigen, weil wir denken, wir müssten das als ein Theater, das sich so politisch legitimieren will, sondern wir reden über São Paulo in der Hoffnung, wir könnten da etwas finden, was aussagen über unsere Verhältnisse in Europa.
Donc il ne s'agit pas de parler du tiers-monde de façon folklorique, il s'agit de réfléchir là-dessus pour essayer de trouver des réponses sur notre cadre de vie, sur nos situations de vie en Europe.
Also wir sind kein Theater, das dauernd unter dem Druck oder Zwang steht, sich zu legitimieren als politische Institution, als einen Ort, wo man Aussagen über gesellschaftliche Verhältnisse macht, sondern es gibt eine Verabredung, dass wir nur über die Verhältnisse reden, die wir auch kennen und über die wir wirklich Aussagen, emotionale, verzweifelte Aussagen
machen. Aucune règle n'est établie, c'est-à-dire ils ne répondent pas à un cahier des charges en tant que théâtre politique, obligé de faire des politiques de permanence, mais c'est un théâtre qui parle vraiment des problématiques qui les touchent, eux-mêmes directement.
Alors Pablo au Supermarché Plus est annoncé comme le troisième volet d'une trilogie que vous avez menée ces dernières années. Faut-il raconter les deux premiers épisodes pour comprendre celui-ci? Ou finalement, Pablo n'est-il qu'un archétype du travailleur?
Ouais. Non. Ce ne sont pas vraiment des suites, ce n'est pas vraiment une trilogie.
Ce ne sont pas vraiment des suites, ce n'est pas vraiment une trilogie.
Da die Abende, die wir machen, im Prater oder anderswo, durchweg was Serielles haben, dass ein Stück fängt da an, wo das andere aufhört.
Donc en fait, de toute façon, les soirées au Prater sont par principe même des séries, et un morceau commence là où le précédent s'est arrêté, finalement.
Deshalb tun wir manchmal, markieren wir das manchmal, indem wir eine Reihe von Stücken dann wirklich als Trilogie oder als Serie aufhören.
C'est pour ça que de temps en temps, on marque le coup en présentant un certain nombre de spectacles comme des trilogies.
Alors, qui est ce Pablo?
In einem Theatersinne, es ist keine Figur, die auftaucht, es ist auch kein Charakter, der geschrieben wird oder dessen Geschichte erzählt wird.
C'est pas un personnage dont on raconte l'histoire.
Es ist. Immer schwierig, so erstmal gegen so eine Vorannahme, dass ein Name im Titel steht und dann damit klar wird, es geht jetzt um eine Figur und eine Geschichte.
Donc le titre de lutter contre cette idée-là de présenter Pablo dans un supermarché, de lutter contre l'idée que c'est un personnage établi, qu'on va voir évoluer, etc.
An unseren Abenden gibt es keinen Text, der auf bestimmte Figuren verteilt wird.
Dans nos soirées, il n'y a pas de texte qui est réparti entre les différents personnages.
Das bedeutet auch, dass niemand der Schauspieler an diesem Abend von irgendeinem Text ausgegrenzt oder abgegrenzt wird. Der Text gehört immer grundsätzlich allen Schauspielern.
Donc, par principe, aucun comédien n'est exclu. Fondamentalement, le texte appartient vraiment à tous les comédiens.
Es ist nicht so wie zum Beispiel bei Hamlet, wo Hamlet Besitzer des Textes Hamlet ist und Ophelia bleibt nur der Ophelia-Text, sondern Hamlet und Ophelia, dieser Text würde beiden gehören.
Donc c'est pas comme dans Hamlet, sens classique, où le comédien joue en Hamlet est propriétaire du texte d'Hamlet, Ophélie propriétaire du texte d'Ophélie. Dans ce cas-là, Hamlet et Ophélie seraient communément propriétaires du texte.
Und in Pablo in der Plusfiliale geht es natürlich bei uns eher um die Plusfiliale als um Pablo.
Donc en fait, il s'agit beaucoup plus du supermarché plus que de Pablo.
Es geht in unseren Armen nie um eine Vereinzelung, die Vereinzelung eines Konflikts auf jemanden, auf eine bestimmte Figur, sondern es geht tatsächlich um Plusfiliale, es geht weiterhin um unser Paulo.
Mm. Donc il s'agit pas d'un personnage, d'une situation individuelle, d'un conflit particulier individuel, mais bien du supermarché et de Sao Paulo.
Si on parle du texte, vous en êtes l'auteur, mais pas complètement, parce que j'ai cru comprendre que le texte dit par les comédiens est en fait des cut-ups de textes philosophes, de sociologues, de penseurs sur le monde. Donc en fait, c'est du texte public, d'une certaine façon.
Es ist, weil da auch so viele Vorannahmen bestehen, muss man erstmal sagen, es handelt sich hier nicht um das Sampling von verschiedenen Texten.
Donc, pour faire face aux préjugés, il ne s'agit pas d'un Sampling de différents textes.
Sondern es geht dabei oft um einen oder zwei Texte, die mich sehr interessieren und für die ich versuche, die Schauspieler zu interessieren und die ich auf die mich so sehr interessieren, dass ich mich aufgefordert fühle, sie in meiner Lebensverhältnisse weiterzuschreiben.
Il s'agit le plus souvent d'un ou deux textes qui m'ont beaucoup intéressé et intéressé à un point que j'ai envie de les faire partager et d'intéresser les comédiens à ces textes-là. Et donc je les lis, je m'en imprègne et je les poursuis, en fait, je continue l'écriture.
Est-ce qu'il y a un décalage entre le niveau du texte et ce qui est représenté sur scène? Est-ce que vous jouez sur ce décalage-là?
Ja, was, wenn ich das richtig verstehe, gibt es jetzt nicht wie ein, das, was gesprochen wird, wird sehr oft abgekoppelt von dem, was zu sehen ist oder gehandelt wird. Auch so nicht. Vielleicht verstehe ich die Frage. Nee, das ist eigentlich entkoppelt. Es geht nicht darum, den Text zu illustrieren, sondern die Schauspieler versuchen, diesen Text zu nutzen, um wirklich über ihre Situation nachzudenken. Sie sind nicht Leute, die einen Text, der jetzt der Autor irgendwie ausgespuckt hat, der in der Form von Erkenntnis ist, jetzt den Zuschauer nahezubringen, sondern er ist eigentlich, wenn ich schreibe, einen Versuch, mich zu orientieren, mit bestimmten Quellen auch benannt haben, also philosophischen, soziologischen Texten, und auch weiterhin an den Armen der Versuch der Schauspieler, sich mit diesen Texten zu orientieren, die wirklich zu benutzen, die zu Instrumenten zu machen, um über ihre Situation zu sprechen. Und in der Hoffnung, dass dieser Akt, dieses Agieren, was eben kein Darstellen mehr ist, dass das auch was mit dem Leben der Zuschauer zu tun hat. Und dass die mit dieser Energie und diesem Wissen wollen, was anfangen können.
Donc en fait, il ne s'agit absolument pas de représentation, donc il y a effectivement un étalage entre le texte et ce qui est présenté. Il ne s'agit pas de représenter le texte, il s'agit de s'en emparer pour les comédiens et d'essayer d'en faire quelque chose par rapport à leur vécu à eux, à ce que eux connaissent dans leur vie, et avec l'espoir que cela puisse être compris et suivi et que ça parle aux spectateurs.
Es ist keine Form von Repräsentationstheater, in der mit Schauspielern Teile von Wirklichkeit nachgespielt werden. Sie sind auch nicht.
C'est pas un théâtre qui fait une représentation d'une certaine réalité.
Sie sind, wie gesagt, nicht die Körper, die quasi Text vermitteln ans Publikum, also die zwischen Autor und Publikum geschaltet sind.
Ce ne sont pas les décors qui transmettent le texte d'un auteur à un public,
sondern wir versuchen in dem Moment jedes Abends uns mit diesem Text auseinanderzusetzen.
Donc, en fait, ils essayent chaque soir de s'emparer de ce texte et de le remettre en question et de le retravailler.
Um etwas zu benennen, was sehr schwer zu benennen ist.
Pour nommer quelque chose qui est très difficile à nommer.
Und um etwas scharf zu stellen, das so als Phänomen, also so als Normalität oder das, was scheinbar alles selbstverständlich ist.
Pour mettre l'accent sur un phénomène qui ressemble à la normalité.
Genau, da genau zu gucken, was passiert da eigentlich.
Et pour voir qu'est-ce qui se passe là. Essayez.
Alors, je ne sais pas si il y a des questions, mais j'aimerais qu'on reste encore deux secondes sur ces textes, parce que vous disiez, René Polège, qu'il y avait un ou deux textes qui étaient à l'origine de ce spectacle et qui vous avaient tellement interpellé que vous avez eu envie de leur donner une suite, et notamment une suite sur scène. De quel texte s'agit-il ? Parce qu'on n'est déjà pas nommé.
Alors. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich an der Volksbühne in dem Bühnenbild, auch aufgefordert von dem Bühnenbild wieder von Bert Neumann, das Neustand genannt wurde, die haben sich mit Dritte Weltmetropolen beschäftigt.
Ich kenne sehr viele Leute, Szenografen an der Volksbühne, die sich mit der Szenografie an der Volksbühne beschäftigt haben, die sich mit den Metropolen des Tiers-Monde.
Diese Bücher, oder das letzte Buch, was sie rausgegeben haben, hieß Learning From, ..
Le dernier livre qu'ils ont sorti s'appelle
Learning From.
Learning From. Point de suspension.
Und meint das gestiegene Interesse europäischer, ehemals funktionierender Metropolen an Dritte Weltmetropolen, wie da Leben und Arbeit organisiert wird. Und die Abwesenheit von sozialen Systemen.
Donc présente l'intérêt pour les métropoles du tiers-monde, l'intérêt qui est développé pour ces métropoles, surtout par rapport à l'absence de
Netzen,
d'acquis sociaux, en fait.
Mais vous diriez, comme Jan Lauer tout à l'heure, que l'Afrique, pour vous, le tiers-monde, est la ponce de cette civilisation.
Ich kann dazu nicht sagen, weil ich die ganze, also so als Satz sagt das mir gar nichts.
Ich peux pas vraiment le commenter ça.
Es gilt eher, glaube ich, so als, oder da werden sich oft die Beispiele abgeholt, dass alles trotzdem funktioniert, dass Leute leben und arbeiten können in Unsicherheit.
Donc on arrive toujours à dire que les gens arrivent à vivre et à travailler dans l'insécurité du peuple, ils arrivent à continuer à vivre.
Und darüber geht im Grunde auch Fabel und der Putzfiliale. Er geht um die Intensität, die jemand empfindet, wenn er versucht, eine Grenze zu überwinden, die ihm wo es ihm schwer gemacht wird, die überhaupt zu übertreten, um dahinter Arbeit oder ein besseres Leben zu finden, dass diese Intensität oder dass dieses Abarbeiten sich an Unsicherheit, im Grunde der Motor sein soll für wirtschaftliches Wachstum.
C'est aussi la thématique de Pablo, à savoir l'intensité que vit une personne qui essaie de traverser une frontière, les difficultés qu'on lui fait pour traverser cette frontière, avec l'espoir de vivre une vie meilleure avec un travail. De l'autre côté, et avec cette insécurité, cette intensité qui est provoquée dans l'individu, et le fait d'intégrer ça en fait dans la normalité, maintenant, de plus en plus.
Y a-t-il des questions en public, monsieur ?
Par rapport à l'éthique.
On a vu quelques photos du spectacle qui montrent une esthétique assez 70s, assez kitsch. Je voulais savoir pourquoi ce choix-là par rapport à ce que vous disiez.
Ich kann dazu nur sagen, dass ich das nicht 70s finde, erstens.
Das ist das, was ich jetzt auch fast après 70s.
Ja. die Fotos sind manchmal etwas, was dieser Betrieb, so ein Theaterbetrieb ausspucken muss und kann auch wenig wiedergeben von dem, was so eine Art ist. Das dient irgendwie, um die Presse zu beliefern. Und,
les photos sont hélas ce qu'un théâtre doit fournir à la presse, souvent, et donc une idée très limitée de ce que peut être une soirée théâtrale.
Ich will aber etwas sagen, was damit zu tun hat, dass ich, ich bin kein Autor oder Regisseur, der eine bestimmte Vision hat von einem Produkt, was dann am Tag der Premiere ausgestellt wird.
Je ne suis pas un auteur ou un metteur en scène qui a une idée très précise de ce que, de ce que doit être le produit final qui va être présenté à la première.
Und ich bin niemand, der dann dafür sorgt, dass alle daran mitarbeiten, dass die Vision dann so auch auf der Bühne steht, wie ich sie in meinem Kopf mit mir rumgetragen habe.
Et je suis pas celui qui va veiller à ce que tout le monde travaille à construire la vision que moi j'aurais eu par rapport à cette création.
Sondern der Abend sieht dann so aus, auch auf Fotos, auch am Abend der Premiere, weil bestimmte inhaltliche Entscheidungen getroffen wurden und nicht, weil ich irgendeinen Geschmack nachjage oder einen bestimmten habe und den auch durchsetzen will.
C'est parce que le résultat vient aussi du fait qu'il y a des décisions fondamentales qui ont été prises dans le cadre d'un travail en commun. Et le résultat, c'est celui qu'on voit.
Dass oft sehr viele, vor allem Frauen, an den Abenden vorkommen als Schauspieler, hat nicht damit zu tun, dass ich jetzt das aus irgendeinem Grund das dann irgendwie so als Bild dasteht, dass drei Frauen da sitzen, sondern weil Frauen im Theater normalerweise, was Texte betrifft, die rational sind und nicht emotional eben zu kurz kommen.
Le fait qu'il y ait très souvent des femmes in der Produktion, il y a d'autres productions, notamment Sex, où c'est trois femmes qui parlent tout le temps. C'est lié au fait que...
Dass an den Abenden zum Beispiel, also an meinen Abenden, vor allem Frauen Performer sind und den Hauptanteil des Textes tragen, hat nicht damit zu tun, dass also eine bestimmte Vision in meinem Kopf zu verwirklichen, dass ich das halt so möchte, sondern dass Frauen noch traditionellerweise im Theater von dem Vernunftanteil der Stücke ausgegrenzt werden.
Das ist tout simplement le fait que traditionnellement les femmes sont plutôt exclues, mis en marge au théâtre, au niveau du texte, et chez lui c'est exactement l'inverse de ça, quoi. Parce qu'elles agissent de façon plus rationnelle. Et c'est elle qui s'empare le plus du texte, simplement. Mais c'est pas parce que lui, il a une vision particulière et qu'il veut que ce soit comme ça.
Es gibt das, zum Beispiel so dieses Missverständnis führt auch dazu, dass auf Fotos dann schreiende Frauen abgebildet sind, Fotos, auf die wir keinen Einfluss haben, wo es dann so aussieht, als seien diese Frauen vor allem hysterisch und emotional aufgelöst unterwegs. Das sind aber nur bestimmte Momente an einem Abend, wo Frauen vor allem denken.
En fait, on peut avoir l'impression, en voyant les photos qui ne maîtrisent pas finalement, qui sont présentées après du spectacle, où on voit des femmes qui hurlent, qui crient, et avoir l'impression qu'on montre que des femmes hystériques, en fait, c'est pas du tout le cas, c'est juste que ce sont de courts instants, et ce sont des femmes qui pensent vraiment.
Ça va certainement lié avec les photographes, surtout, ou avec les... mit den Leuten, die diese Fotos veröffentlichen.
C'est plus en rapport finalement avec les problèmes, ce problème qui casse, plus en rapport avec les photographes et les personnes qui publient les photos.
Alors si ce n'est pas kitsch, pour reprendre l'expression, est-ce que vous pouvez dire de quelle esthétique, vers quelle esthétique vous tendez? Parce qu'on parlait tout à l'heure, on a pu parler depuis de soap opéra.
Soap Opera kann man kann darüber ästhetisch reden, man kann es aber auch, man kann sagen, wir benutzen es, weil es ein Format ist, was sehr populär ist und wo man versuchen kann, quasi es mit anderen Inhalten zu füllen.
Donc on peut, le soap opera c'est intéressant parce que on peut le considérer ça du point de vue esthétique, mais du fait que c'est extrêmement populaire, c'est une chose très très populaire et qu'on peut le remplir avec d'autres contenus.
wir vernachlässigen während den Proben eigentlich total, wie das dann aussehen könnte. Wir sind nicht irgendeinem Geschmack verpflichtet, dass es dann besonders 70s aussieht oder besonders kitschig. Das ist nicht das, worüber wir uns unterhalten, sondern wir treffen vor allem inhaltliche Entscheidungen, wir unterhalten uns sehr inhaltlich und vernachlässigen etwas, was Sie zum Beispiel durch die Frage sehr stark in den Vordergrund rücken.
Oh. En fait, pendant les répétitions, on néglige énormément ces aspects-là, ces aspects scénographiques. Et finalement, tous ces aspects qui ressortent beaucoup des questions, quoi, notamment au niveau de l'esthétique. On se pose beaucoup plus de questions sur le contenu, sur le texte.
Wie unsere Arbeit dann am Abend der Premiere aussieht, interessiert uns eigentlich überhaupt nicht. Sondern uns interessiert die Zeit, die davor ist, der Probenprozess, unsere inhaltlichen Diskussionen. Dass wir einen Text haben, den wir wichtig finden, Aussagen oder etwas auf der Bühne sagen, wo wir wichtig finden, dass wir das sagen und nicht wie etwas aussieht.
Et en fait, à quoi va ressembler la première, ça nous est complètement égal. Ce qui compte pour nous, c'est la période de répétition, la période de questions qu'on se pose, le dialogue qui a lieu. Et le fait de transmettre un texte, de diffuser un texte, de le parler, de le dire sur scène.
Ich finde dann immer, ich finde eine Geschichte dann ganz gut. Wir haben am Prater mal ein Stück gemacht, das hieß Frau unter Einfluss.
Un jour, nous avons fait une pièce au Prater qui s'appelait Femme sous influence.
Und mit drei Frauen, die sich über den, die sich darüber unterhalten haben, auch das. Der Arbeitsmarkt sehr stark nach Geschlechtern getrennt ist. Sie haben sich über ihren Alltag unterhalten als Frau.
Donc avec trois femmes qui parlaient de leur quotidien, qui travaillaient aussi, qui parlaient du marché du travail, sur le fait que le marché du travail est extrêmement séparé entre les sexes, quoi. Il y a une forte répartition des sexes dans le marché du travail.
Denn als der Abend wurde rezipiert in der Presse, konnte man nicht, ich sage jetzt nicht, dass das nur da begegnet einem, so ein Zuschauerblick auch, war das dann so, dass die Männer vor allem geschrieben haben, dass schöne Frauen sehr wilde Dinge tun, während die Frauen geschrieben haben, um was es da inhaltlich geht.
Donc, en fait, les critiques, surtout évidemment les hommes, ont dit que bon, les femmes se comportent de façon assez sauvage, alors qu'en fait il s'agissait surtout d'un contenu, d'une parole. Quoi.
Also die männlichen Kritiker haben den Abend sehr stark reduziert auf das, was zu sehen ist.
Donc les critiques masculines ont réduit ça à ce qu'il y avait à voir.
Und die weiblichen Kritiker haben sich vor allem dafür interessiert, was da verhandelt wird.
Et donc les critiques féminines se préoccupaient principalement de ce dont il était question.
Und dieser Unterschied in der Wahrnehmung, den finde ich zum Beispiel politisch, ohne dass ich jetzt.
Ja. Et cette différence, je la trouve très politique.
Madame.
Ich arbeite für den Standard in Österreich. Sie haben letztens ein Interview mit einer meiner Kolleginnen gemacht, wo Sie eben über die Zusammenarbeit mit den Schauspielern gesprochen haben. Können Sie das noch einmal erzählen, weil ich fand das unheimlich spannend. Also so wie Sie der große Regisseur eben mit sind. Und wie die Verteilung ist und wie die Entscheidungen getroffen werden.
Donc, Madame demande des Details sur des choses que René Collège avait évoquées dans une autre interview, son travail avec justement avec les comédiennes, le fait qu'il ne soit pas le grand metteur en scène qui dirige absolument tout, et il semblait qu'il y avait des détails passionnants.
Ich würde erstmal sagen, dass ich nicht ein Regisseur bin, so im traditionellen Sinne, sondern meine Aufgabe besteht oder mein Vorteil vielleicht sogar zu dem eines Regisseurs, der sich Stücke erst ranschaffen, aneignen muss, besteht darin, dass ich sehr gut Auskunft über die Texte geben kann, die ich als Vorschlag anbringe in der Probe.
Donc je ne considère pas comme un metteur en scène, ma force, plutôt mon. L'avantage que j'ai, c'est que je suis assez bon pour m'approprier un texte et le faire passer aux comédiens, le faire pour qu'ils le saisissent.
Ich habe auch nur Vorannahmen von der Arbeit von Regisseuren, deshalb, weil ich habe nie assistiert und ich habe auch nie einem Regisseur zugeguckt.
Je j'ai jamais été assistant metteur en scène, j'ai jamais assisté à une mise en scène, j'ai jamais été présent.
Aber ich kenne natürlich viele Geschichten von Probenprozessen durch die Schauspieler.
Je connais beaucoup d'histoires de mise en scène par les comédiens.
Und meine Arbeit besteht, wie gesagt, das habe ich schon gesagt, dass es nicht darum geht, dass ich eine Vision von mir durchsetze mit den Körpern oder mit den Körpern der Schauspieler, sondern dass die genau das.
Oui, donc il ne s'agit donc pas d'imposer une vision avec les corps des comédiens, de présenter en tant que metteur en scène donc une construction bien précise.
Ich sage zum Beispiel nie einem Schauspieler, wie er einen Text sagen soll, wohin er sich bewegen soll, was er machen soll.
Je ne dis jamais à un comédien comment il doit lire un texte et comment il doit se déplacer.
Vous avez dit à un moment que vous aimiez des comédiens autonomes et intelligents. C'est ça.
Autonome Schauspieler gibt es, findet man nicht einfach so, sondern sie kommen durch eine Situation oder Probensituation zustande, die auch ihre Autonomie braucht. Es gibt eben viele Regisseure, die keine autonomen Schauspieler brauchen, die da eher hinderlich sind. Und es ist aber so wertvoll, autonome Schauspieler zu haben oder für eine Situation zu sorgen, in der sie autonom werden können.
C'est pas facile à trouver des comédiens autonomes, mais en fait, ce qui compte, c'est de les placer dans une situation où obligatoirement ils doivent être autonomes. Parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui ne veulent pas trop être autonomes, qui veulent tout simplement les diriger.
Madame.
Et si vous avez dit que c'est pas Pablo le protagoniste, mais c'est le supermarché, ça veut dire qu'est-ce que raconte le supermarché de nous, de notre vie? C'est une histoire sur la globalisation? Ou c'est plutôt l'organisation du travail dans les supermarchés.
An dem Abend wird sehr oft darüber geredet, dass sich Leute Arbeit besorgen müssen oder durchschlagen müssen mit einer Arbeit, die erstmal nicht normalerweise als Arbeit gesehen wird und entweder sehr stark illegalisiert oder kriminalisiert ist.
La soirée, la pièce, parle énormément de personnes qui se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de travailler dans des conditions illégales et avec un manque total de reconnaissance.
Also dass sehr, sehr viele Menschen im Moment illegal Grenzen überqueren müssen.
Le fait que énormément de gens sont obligés de traverser illégalement les frontières.
Illégal arbeiten müssen, um überhaupt überleben zu können.
Et de travailler illégalement pour pouvoir tout simplement survivre.
Das andererseits eben auch zum Beispiel Ketten wie Schlecker, Aldi, Lidl, das sind alles so Supermarktketten.
Des chaînes de supermarché, Lidl, Schlecker,
ihre Expansion eben auch darauf aufbauen, dass sie am Gesetz vorbei gemanagt werden.
Construisent leur développement sur le fait qu'ils méprisent les lois.
Und dass diese Gesetzesübertretung auf der einen Seite von Leuten, die versuchen zu überleben, und Konzernen, die versuchen zu expandieren, was was das miteinander zu tun hat.
Et que ce mépris des lois et des conditions de vie des gens, quel est le rapport entre ces différents éléments?
Es gibt natürlich keinen Staat oder keine Gesellschaft, die seine Subjekte oder zur Gesetzesübertretung auffordert, aber dass die im Grunde die eigentliche Politik ist.
Évidemment, il n'y a pas d'État qui déclare officiellement qu'il faut mépriser les lois, transgresser les conventions collectives, etc. Mais dans la réalité des faits, c'est ça, c'est ce qui se passe.
Dass Unsicherheit oder prekäre Lebensverhältnisse dafür sorgen, dass sich die Leute selbst um ihre Verhältnisse kümmern, dass sie sich privat organisieren, dass sie Netzwerke bilden, abseits von dem, was der Staat noch bieten kann.
Donc le fait que l'insécurité, en fait, la précarité soit une politique finalement, ça conçu comme faire vivre les gens dans l'insécurité, dans la précarité, c'est qu'on sait une politique voulue.
Und dass das natürlich sehr stark gewollt ist.
Oui, c'est voulu très fortement.
Dass zum Beispiel zum Beispiel in Berlin HIV-Positive, die nicht mehr aufgefangen werden von AIDS-Hilfe oder wo es einfach kein Geld gibt für die, dass sie sich privat organisieren, zusammenschließen, sich unterstützen, wenn der eine krank ist, kümmern sich die anderen um ihn und so.
Le fait de raison qu'on délaisse complètement les gens, par exemple à Berlin, les gens qui ont le sida n'obtiennent plus, qui sont en situation économique difficile, n'obtiennent plus d'aide, donc ils sont obligés de construire des réseaux, de s'entraider entre eux, de faire ça de manière totalement privée. Et l'État se désengage complètement de ces devoirs-là.
Monsieur. Ce n'est pas la chute aussi invité au CMEA.
Oui, je le dis en passant, là, puisque nous recevrons donc René Polège et nous vous y invitons le 10 et nous souhaitons démarrer les débats avec des gens qui ont vu le spectacle et qui donnent leurs impressions sur le spectacle. C'est donc à 11h30 le 10 avec René Polège dans la cour des CMEA. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous poser comme question. À côté de leur installation. Je voulais vous demander, en faisant fonctionner le système, est-ce que vous considérez que l'acheteur est complice de cette exploitation?
J'ai pas compris que là, quoi?
L'acheteur.
L'acheteur.
Nous-mêmes, nous sommes complices de cette exploitation.
Ich lasse mich eigentlich nicht zu solchen Statements hinreißen oder auch zu Fragen in Interviews, wenn ich gefragt werde, was sagen Sie dazu oder dazu. Ich bin niemand, der jetzt als Autor da sitzt und zu allem so seinen Senf abgeben will oder muss, sondern ich schreibe Texte, die versuchen, die Komplexität von diesen Zusammenhängen erstmal wahrzunehmen und sich da durchzukämpfen und auch abseits davon, dass ich dauernd irgendein Statement ausspucken muss.
Je ne peux pas me laisser aller à de telles sentences un peu expéditives. Je suis plutôt un auteur qui essaye de montrer la complexité des choses.
Ich bin, wie gesagt, also ich bin auch nicht so eine traditionelle Autorenfigur, von der man dann erwartet, Aussagen über bestimmte gesellschaftliche Phänomene zu machen, weil ich glaube, das ist auch nicht sehr hilfreich.
Je suis pas du tout l'auteur au sens traditionnel du terme, duquel on attend des sentences bien vues sur les conditions de vie dans la société, sur la situation politique. Parce que je crois franchement que ça ne fait pas beaucoup avancer les choses.
Das würde auch bedeuten, dass ich mich als ein völlig intaktes, homogenes Subjekt wieder ausgeben würde, was die Abende eigentlich nicht tun.
Et ça voudrait aussi dire que je me considère moi-même comme quelqu'un de parfaitement intact et homogène. Et évidemment, les soirées, les représentations ne reflètent pas du tout cela.
On va arrêter là pour les questions, si jamais on avait d'autres. D'autres rendez-vous sont prévus avec vous, René Polège. Donc Pablo au supermarché Plus, ben, la première c'est ce soir, et la présentation dure jusqu'au 11 au gymnase du lycée Saint-Joseph. Merci beaucoup et bon Avignon.
Merci beaucoup aussi.
Je vais demander maintenant à Yann Fabre de venir nous retrouver. Yann Fabre qui sera l'artiste associé de l'édition prochaine en 2005. Comment ?
bonjour.
Donc vous présentez à partir de demain à la chapelle du lycée Saint-Joseph, donc à partir du 9 et jusqu'au 16, l'Ange de la Mort. Alors on vous connaît bien ici à Avignon, puisqu'on vous a vu plasticien, on vous a vu grand organisateur de contes médiévaux, avec Je suis sans, chorégraphe, homme de théâtre, etc. Et pour cette pièce, L'Ange de la Mort, vous utilisez essentiellement, on va en parler, de la vidéo et du film. Est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle facette de votre travail d'artiste et d'auteur que vous présentez ici?
Good morning. Good afternoon. I did a lot of films already. From my I created a lot of films over 20 years.
Non, pas vraiment, puisque ça fait déjà 20 ans que je tourne des films.
But it's the first time that I'm, let me say, use four screens, because it's a combination of four screens where the public is sitting inside. And that's probably the first time I do this. It's really like a rapport between the performer, actress, dancer, Ivan Jovic in the middle, with the four screens, with on these screens of Bill Forsyth.
Oui, en revanche, c'est la première fois que j'utilise ces quatre écrans, avec le public au centre de ces quatre écrans et un échange entre la performance, les danseurs et ce qui se passe sur l'écran, le film de Forsyth.
Oui, est-ce qu'il faut un petit peu décrire, peut-être, vous allez tout de goût dans ce qu'est l'installation, il faut décrire en quatre écrans et une comédienne et un musicien au centre de cette scène, donc cette image virtuelle. Comment vous décririez votre dispositif?
How would you describe how it works? The musician...
So, the four screens, in the middle of a small... A podium is actually dancing Ivan Jovic, and on the sides he comes in and out is the composer musician Erik Slaken, who is with a relationship with the text and the sounds from Ivana, and he creates the composition and recreates composition in the moment itself also.
Oui, c'est-à-dire qu'au centre, sur un petit podium, on a Ivana Josi et le musicien qui passe entre les écrans, qui rentre, qui sort et qui crée l'interaction avec Ivana sur scène.
Est-ce que l'on peut parler de ce qui est montré sur les images? Est-ce qu'on peut dire que c'est un dialogue entre Andy Warhol et William Forsythe? Est-ce que ce sont les deux noms cités?
The first starting point was that Forsyth, Bill asked me to make for him a solo piece. This years ago, I started writing this piece. The problem was he could not remember the text anymore by his age. So now he decided to shoot it in a film.
Au départ, oui, Forsyth a demandé d'écrire une pièce solo, et c'est comme ça que ça a démarré.
And so, in a sense, it's based on the old interviews of Andy Warhol and on interviews with Bill Forsyth.
And en fait, c'est basé sur donc des interviews entre Andy Warhol et Bill Forsyth.
No, not between them. No, on interviews from Bill.
From, and, voilà, c'est
and
ça.
On interviews from Andy Warhol.
Ouais, c'est ça. Des deux séries d'interviews.
And the reason I choose Andy Warhol as starting point is because he represents to me almost like an icon of an artist. Of an artist who was so famous, but at the same time had a longing to disappear.
Oui, en fait, pourquoi j'ai choisi Andy Warhol, c'est que pour moi, c'est un icône, c'est vraiment l'artiste par excellence, et que, voilà pourquoi j'ai choisi Andy Warhol.
And also because the physiognomy between these two men was equal.
Oui, et aussi de cette physionomie de l'égalité, c'est ça, entre ces deux hommes.
And in a sense, in the text and the live performance, Bill represents a kind of angel artist who is getting interviewed by the devilish interviewer, who is Ivan Jovic. It's a kind of interrogation from both sides. The angel becomes the devil becomes the angel. The one cannot live without the other.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'ange et le démon se mélangent, l'intervieweur et l'interviewé se mélangent. Il y a vraiment une métaphore de l'artiste et ce mélange crée un. C'est ce qui rend les deux interviews, les deux parcours particulièrement intéressants.
Et où vous situez-vous entre ces deux figures, Warhol et Forsythe?
Of course, it's also a statement of my own being in the platform, in the public platform of arts and theatre. It's also kind of manifest to myself what I think about my situation.
Oui, évidemment, c'est aussi en pensant à moi, parce que c'est aussi une représentation de moi sur par rapport au succès, par rapport à ma position en tant qu'artiste.
Est-ce qu'on peut penser cette pièce L'Ange de la Mort, Yann Fabre, en relation avec la pièce qu'on avait vue lors du précédent festival d'Avignon dans la cour d'honneur, Je suis sans. Est-ce que vous faites un lien formel ou intellectuel entre ces deux pièces, et vraiment le grand spectacle de Je suis sans?
Maybe the link is the research about the body. I think all my work for more than 20 years, my visual work, my theater work, is in a sense the research about the body, this strange laboratory where we, every morning, we wake up with this strange laboratory.
Oui, probablement en ce sens que c'est la recherche sur le corps. D'ailleurs, depuis 20 ans, mon travail est centré sur cette recherche, sur l'importance du corps humain et auquel on a affaire chaque matin en se réveillant.
For example, the way the movie is shot in Montpellier, the oldest anatomical museum in the world, and the way I choreograph, for example, Bill, is based on all the organs you also will see in the film. So it was a kind of, let us say, approaching movement really from out of the organs, what was also quite new for Bill. It's always a research in the sense of a link in the film. Also, I used a lot of images from classical paintings for the colors. I made it stretch in the film, and also the kind of research between the diseases on classical paintings and the organs who were real from humans who were in the Montpellier Museum.
Oui, c'est aussi une recherche sur le fonctionnement de ces organes, le rapport qu'il y a entre les maladies, les problèmes de la peinture classique et puis les organes, et en particulier en se référant au musée de Montpellier d'anatomie, et donc ce fonctionnement particulier des organes, et en ça c'est nouveau.
So in the sense, the piece is a kind of research, a kind of consilience between movements, texts, classical painting, and all these links between this.
Voilà, c'est vraiment tous les liens entre tout ça et la peinture classique.
Le fait que le spectateur, pour la première fois, je crois, dans votre travail, soit au cœur du dispositif, est-ce que ça veut dire que vous impliquez aussi le corps du spectateur pour la première fois à ce point dans votre réflexion sur le corps?
Non, it's also not the first time. It's in a sense, it's more than now. Since 1990, I went back to regularly create solo pieces. Because for me to create a solo piece is almost like a microscopic exercise. And also, the public becomes much more lesser en masse and much more individuals. And it's also, of course, about the rapport between the voyeurism of the public towards the dancer actors, or other way around. It's almost like they need each other's eyes as mirrors.
Non, en réalité, le fait que le public soit plus proche, c'est aussi un moyen de... C'est plus comme le fonctionnement d'un microscope. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai aussi écrit ces pièces solo pour vraiment voir l'artiste de plus près, comme par un microscope. Et le fait que le public soit plus près aussi, réduit finalement, c'est aussi un jeu sur le voyeurisme. Et ça rapproche effectivement, ça rend le public... non plus public en tant que groupe, mais le rend plus individuel.
And also, of course, always with creating a solo, it's almost like you go back to the fundamentals of theater, of creation, and the fundamentals of what is an actor on stage, what is a dancer on stage. So every movement, every word becomes so important because the solo performer is the everything at that moment. He's a light, he's a set. I mean, because he carried the performer. So it's also for me always an exercise in going back in deepness and in details and in creating things step by step.
C'est aussi un moyen de revenir vraiment au fondement du théâtre, à l'essence du théâtre, en ce sens que l'acteur, chaque chose dans l'acteur, chaque détail compte, chacun de ses organes, on peut dire, compte, et finalement, ça permet de se rapprocher au plus près, à l'essence, à chaque détail, et rendre les choses, chaque chose reprend son importance.
So because the piece, in a sense also, is, in a sense, the piece starts when the two people are dead. It's in a sense, about the idea of post-mortem stadium of life, that when you were once dead, afterwards every move, every blink, every word you use becomes an happening of itself.
Oui, c'est-à-dire que chaque mouvement, chaque regard, chaque détail d'un mouvement est un événement en soi.
Yes, it's the idea of the post. More than the stadium of life.
Oui, c'est ça, c'est l'état post-mortem, voilà, après la vie.
Est-ce que vous pourriez dire ce travail de dissection?
It's always a dissection. Particularly with solo pieces, it's always a dissection. It's really, it's almost like I approach the body almost like, yeah, a biological mechanism.
Oui, c'est toujours un travail de dissection, c'est un mécanisme biologique, effectivement.
Mécano,
c'est un mécanisme biologique, effectivement, chaque partie du corps, c'est toujours une dissection. C'est un travail dans chaque détail, surtout.
Et ça, c'est un travail de dissection de très grand de l'art, c'est Warhol et c'est Forsyth. Ce ne sont pas n'importe quel corps.
Yes, but for me, representing the same two bodies, the same, for me, I mean, Warhol is a real like an icon of the visual arts, and then you get both. Bill Forsyth, I think, is an icon of the dance world. So, in that sense, it was an interesting report to search these two types of bodies, in a sense, next to each other. Because I used also, the kinetical behavior of Warhol to choreograph also Bill. And also choreograph Ivana Jovic also. And also, of course, I by studying the way he gave interviews, Andy Warhol, for example, but also Bill, because usually they don't say anything in interviews. They listen to the interview and they always say yes and no.
Oui, en fait, c'est vrai que je n'ai pas choisi n'importe qui, puisque je dis Andy Warhol, icône de l'artiste, et Bill Forsyth, icône dans le monde de la danse. Et effectivement, c'était intéressant de voir aussi comment il avait donné ses interviews, puisque normalement, il ne dit rien lors de ses interviews, il répond juste oui et non, et il n'y a pas vraiment de communique par moment.
Je vais, vu l'œuvre tournant, je vais m'adresser au public pour savoir s'ils ont des questions à propos donc, de l'ange de la mort. Nouvelle proposition de Yann Fabre. Apparemment, non. Yann Fabre, j'aimerais vous demander, on avance un petit peu dans le temps, mais... Pardon.
Je voulais demander, bon, je ne sais pas évidemment pour le spectacle, mais quand vous dites l'ange de la mort, est-ce qu'on doit entendre par mort aussi la vie comme dans Je suis sans, le sang, ça peut être la mort, parce que le sang s'écoule, mais c'est aussi la vie, comme vous dites, le sang c'est la vie.
I think... when I understand the question, I think all my pieces are incarnating death, because death is a very important element in my work. It's, you only can live when you carry death around. And also in this work, it's a little bit based on the memento mori of the Middle Ages. So that's the reason I talked about the idea of post-mortem stadium of life.
Oui, tout mon travail est basé sur la mort, parce qu'on ne peut pas vivre sans l'idée de la mort. Et effectivement, la mort est présente là, la mort est présente dans ces pièces, oui, c'est sûr.
Mais ce n'est pas tant la mort, enfin, c'est la mort et l'état d'après la mort qui vous...
Oui,
c'est vrai, parce que la mort, c'est pas la mort en tant qu'énergie négative, mais vraiment énergie positive.
Mais je fais comme ça un petit droit de suite. Comment vous pouvez expliquer cette obsession, j'emploie les mots faciles, mais cette obsession de la mort et de l'état post-mortem, pourquoi est si présent dans votre travail?
Why?
Why?
First of all, because I think when you're as an artist, in a sense, you're always dead already. You only live through your work. And also,
parce qu'artiste, effectivement, on travaille, on est totalement dédié à son travail, on vit déjà avec la mort.
As an artist, it's also creating is a training and an exercise in the preparation to die.
Et puis, finalement, l'art, c'est aussi c'est une préparation à la mort, en tant qu'artiste.
And of course, a lot of, I think my roots as a Flemish artist, as to do we see all the big monsters, classical monsters, the death was always represented also in paintings. The memory of death, the respect for death, the death as a kind of feast to celebrate life.
Et mes racines aussi, évidemment, faut comprendre aussi l'importance de la mort pour moi, comme la mort est présente dans la peinture flamande, donc évidemment elle est présente dans mon travail.
That it's a celebration of death, it's a celebration to life.
Yeah, oui, ou la célébration de la mort, c'est aussi la célébration de la vie.
And another important element in my private life was that I was 2 times in coma. I was 1 time 9 days in coma and 1 time 4 days in coma. And I experienced afterwards when I came out of the coma that for me moving and looking and thinking was almost like a miracle.
Oui, il faut dire aussi, si je parle un petit peu de moi, que sur le plan personnel, j'ai 2 fois expérimenté le coma et que sortir du coma, c'est une expérience extraordinaire. Penser, le voir, c'est un miracle. Hein,
so,
quand on sort du coma.
It's always also a method of teaching what I did over 20 years of trying to convey and convince the actors and the dancers that they have to live on stage in a post-mortem stadium of life, in a sense, because in a sense by an awareness of happiness that you're living, the enjoyment becomes much more deeper and much more alert.
Oui, c'est probablement aussi une manière d'enseigner aux acteurs et aux danseurs que ce qu'ils expérimentent sur scène, de danser, c'est vraiment l'essence de la vie, c'est parce que c'est plus profond, c'est plus intense, c'est vraiment la vie la plus intense, cet état, c'est le moment le plus intense de la vie, c'est vraiment une expérience.
Et la mort vous fait peur?
Non,
je n'ai pas peur de la mort.
Non, pas bon.
Y a-t-il d'autres questions? Non. Yannis, j'aimerais, avant qu'on se quitte, juste vous demander, vous serez donc l'artiste associé l'an prochain du Festival d'Avignon. Est-ce que vous vous y préparez déjà? Dans quel état d'esprit vous envisagez cette association? Et par exemple, William Forsythe est-il un des noms qu'on pourrait retrouver dans votre galaxie avignonnaise l'an prochain?
Yes, Bill Forsythe is one of these. Yes, Bill is one of the artists I invited. Because I think he's under the choreographer, the artist to me. He's fantastic colleague.
Oui, c'est vrai que je me prépare pour l'année prochaine. Et oui, c'est vrai que William Forsythe est sur la liste, disons, en fait partie, parce que je pense que c'est un grand artiste.
And I myself, I'm now already a while writing a new piece, and it calls The History of Tears, l'histoire de larmes.
Yes,
and that's the, let us say, the falling off from the forge to Chisholm. Because it's about history of years, about the crying philosophers, crying saints, but also the crying of the body, the sweat, and the crying of the tears of God.
Voilà, c'est ça, c'est sur les pleurs du corps, c'est les pleurs du philosophe, les pleurs du corps, c'est la sueur, et aussi les pleurs du ciel.
Ok, merci beaucoup.
Thank you very much.
Donc, l'ange de la mort, Yann Fabre, à la chapelle du lycée Saint-Joseph, du 9 au 16, c'est deux fois par jour, 15h et 20h. Thank you very much.
Okay. Thanks a lot.